Allez, salut mes petites dragonnes et mes petits dragons. Aujourd'hui, premier épisode du podcast. Alors, on va pas faire de détour, je vais pas me présenter, vous apprendre à me connaître avec le temps. Juste aujourd'hui, on démarre sur la question centrale du projet, donc Amulette, l'académie de maîtrise des univers ludiques et théâtralisés que j'ai l'honneur d'avoir fondée et que je souhaite promouvoir au maximum pour la reconnaissance professionnelle du métier de maître de jeu de rôle. Donc la question qu'on me pose aujourd'hui, en fait, c'est une amie à moi, une amie de très longue date, paradoxalement que je connais donc depuis 25 ans, mais que je n'ai jamais rencontrée. Alors comme quoi, le virtuel, ça peut être sympa, ça peut être créateur d'amitié. Une question toute bête qu'elle me pose quand je lui dis est-ce que ça te dirait que je t'initie au jeu de rôle? Elle me dit mais c'est quoi le jeu de rôle? Le pire dans tout ça, c'est que lorsqu'on s'est connus, elle et moi, on s'est connus sur Caramail, pour les plus anciens, vous connaissez peut-être. C'était une espèce de chat en ligne où on pouvait discuter dans des salles de discussion publiques ou dans des salles privées. Et on s'est connus sur un chat, un salon, un forum qui s'appelait finalement le Royaume des Dragons. Et on était tous des dragons avec des noms de dragons. Et on était déjà dans une espèce de jeu de rôle. Le plus fort dans tout ça, c'est que cette amie, qui s'appelait Dragonne de la Rose, elle n'a pas identifié vraiment ce que c'était que le jeu de rôle, alors qu'elle-même faisait du jeu de rôle. Et c'est là où je veux en venir, c'est que parfois, on joue un rôle et on ne se rend pas compte que bah, c'est une espèce de jeu de rôle. Bien évidemment, à l'époque, c'était du dialogue libre, alors on jouait nos personnages, on les interprétait. Il n'y avait pas de jeu dans le sens ludique, dans le sens règle du terme. Voilà. Alors, bah, qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle? Ah, c'est une vaste question. Vous allez pouvoir trouver des réponses au travers d'ouvrages, de littérature. Vous allez pouvoir trouver des réponses sur d'autres podcasts. Je vais vous donner ma définition, un petit peu en impro, comme ça, de toute façon, c'est ma spécialité. Le jeu de rôle, c'est quoi? Tout est dans le titre, hein. C'est un jeu. Et c'est une part d'interprétation de rôle. Alors, qu'est-ce que ça va être pour les ludistes, j'ai envie de dire, pour les joueurs, pour ceux qui veulent vraiment jouer des rôles? Et ben on va avoir plusieurs familles, plusieurs sous-familles de jeux de rôle. On va avoir le jeu de rôle sur table, le classico-classique que tous les rôlistes purs et durs connaissent depuis le berceau, en tout cas c'est pas mon cas, mais depuis la fin du lycée. C'est une table, c'est des amis autour de cette table, c'est un gros bouquin de règles avec 400 pages à se taper en général, pour connaître l'univers, son environnement, mais également une quinzaine, voire une vingtaine de pages de règles pures au milieu de cet ouvrage. Et puis ce sont des discussions avec ce fameux maître de jeu qui est là et qui dynamise, qui anime toute l'histoire qui est en train de se dérouler pour les joueurs. Ça, c'est le jeu de rôle sur table, comme on l'appelle. On y jette des dés, on dénoue des situations, etc. Son petit frère digitalisé, qui est le jeu de rôle sur table virtuel, qui a connu un essor faramineux, notamment grâce ou plutôt à cause de la maudite Covid que l'on a pu connaître dans les années 20, dans les années 20 du 21e siècle, bien évidemment. Ce jeu de rôle sur table virtuelle, bah, c'est sensiblement le petit frère du jeu de rôle sur table, avec cette fois-ci la distance entre les personnes. Donc une table virtuelle qui présente certains avantages supplémentaires, notamment pour le maître de jeu, puisqu'il y trouve beaucoup plus d'accessoires accessibles, beaucoup plus simplement que sur une table où on a des dés, des feuilles de perso, des bouquins. Là, on a tout clé en main. Pour les joueurs, on a une visualisation beaucoup plus rapide, beaucoup plus spontanée, des cartes, mais on y perd bien évidemment tout le côté un petit peu proximité. Ça casse un petit peu l'énergie, les écrans, mais c'est une solution qui peut être tout à fait adaptée dans certains cas de figure. Et l'Académie de maîtrise des univers ludiques et théâtralisés œuvrera également pour la promotion de ce type de maîtrise. Troisième élément, c'est le jeu de rôle grandeur nature. Alors là, on dépasse complètement l'imaginaire et on vient implémenter à notre imagination un décor réaliste, puisqu'on va directement aller jouer le rôle debout en situation réelle, c'est-à-dire dans un environnement comme une forêt, une ville, une salle. Alors quand je dis en situation réelle, attention, hein, à ne pas confondre ce qu'on va faire de manière ludique avec des armes, entre guillemets, qui sont totalement inoffensives. Je pense là à des équipements de type épée avec des embouts en latex, bien évidemment, et des costumes qui sont là pour donner vie un petit peu à l'univers. Et bien évidemment, on n'est pas dans le monde réel, mais on interprète le personnage, c'est-à-dire qu'on va se mouvoir, on va parler beaucoup plus, de manière beaucoup plus théâtralisée, on va essayer de jouer le rôle de manière plus empirique. Autour de la table du jeu de rôle ou derrière l'écran du jeu de rôle sur table virtuelle, on joue un petit peu la comédie, on le joue le rôle, mais beaucoup de joueurs se contentent de dire je fais ça, je vais aller là, etc. Ils ne jouent pas leur rôle. Dans le Grandeur Nature, on est beaucoup plus imprégné de l'environnement qui va nous pousser un petit peu plus à vraiment interpréter le personnage. Ça, c'est le type de compétence que beaucoup de personnes ne possèdent pas. Savoir interpréter un rôle, savoir jouer un personnage, lui donner vie et pousser son caractère, son charisme et également ses convictions et ses objectifs jusque dans le jeu. Ça, c'est quelque chose qu'on vous invite à découvrir au travers de nos formations pour pouvoir acquérir de l'aisance théâtrale, de la prise de parole en public et pour les maîtres de jeu, bien évidemment, les mêmes choses puisqu'il vous faudra interpréter tout ce qui va être personnages non joueurs qui sont les personnages qui vivent au travers des scènes que vous allez animer et dynamiser et qui vont permettre aux joueurs d'avancer dans l'intrigue. Sur le Grandeur Nature, bien évidemment, tout le monde joue à ça, hein, tout le monde interprète de manière beaucoup plus importante, mais grâce aux formations que nous allons proposer au fil des mois à venir, vous pourrez trouver des modules de prise de parole en public, des modules d'acquisition de confiance en soi, puisque je sais que pour vous avoir souvent écouté, vous manquez de confiance en vous et c'est ce qui vous bloque à prendre la parole, c'est ce qui vous bloque à vous plonger dans le rôle et surtout pour les MJ, donc pour les maîtres et maîtresses de jeu, ce qui vous bloque à devenir des pros en improvisation, parce que tant que vous ne serez pas à l'aise dans ce que vous avez à faire, vous ne serez pas des experts en impro. Voilà. Voilà, donc j'ai fait encore une petite digression sur ce qu'est le jeu de rôle. Donc qu'est-ce que c'est que le jeu de rôle? Eh bien, j'en reviens à la définition initiale, hein. C'est un jeu et on y interprète un rôle. Et donc ça va prendre les aspects que j'ai pu évoquer, donc le jeu de rôle sur table, le jeu de rôle sur table virtuelle, le jeu de rôle grandeur nature. Mais on va aussi pousser vers d'autres thématiques un petit peu excentrées, mais qui demeurent alentour au jeu de rôle et à l'aspect théâtralisé de ces activités. J'entends par là les escape games. Et oui, quand vous êtes en escape game, vous êtes enfermé dans une salle, alors vous ne jouez pas un rôle, hein. D'ailleurs, je pense que vous n'avez pas forcément le cœur à le faire. Vous avez le cerveau déjà suffisamment concentré à aller choper la solution, le code du cadenas, comment on désactive ça, comment on résout cette énigme, etc. Pas la peine de jouer un rôle. Par contre, le game master ou le maître de jeu qui lui est censé animer l'activité d'escape game, lui, il est censé vous mettre dans l'ambiance, lui, il est censé vous immerger, faire une immersion complète dans l'environnement dans lequel vous êtes, pour vous stresser un petit peu au début peut-être. Pour vous canaliser en fin de partie, parce que le but, c'est pas non plus de vous faire échouer. D'autres environnements vont être favorables au jeu de rôle. Tout bonnement, on va prendre l'entreprise. Alors, je sais que certains vont dire, ouais, le team building en entreprise, c'est n'importe quoi, on n'est pas là pour jouer. On est... Eh bien, je peux vous garantir que les propriétés intrinsèques au jeu de rôle, qui sont la sortie de soi et surtout la révélation de potentiel inavoué, sont propices à ce que le management puisse détecter des potentiels, sont propices à ce que les équipes mettent de côté leurs conflits éventuels, et en termes de team building, vous créerez beaucoup plus de souvenirs dans une petite équipe qui a fait un jeu de rôle que d'aller au restaurant, même si, attention, moi, hein, j'ai rien contre les restaurants en matière de team building, mais vous créerez pas les mêmes souvenirs. Et surtout, ce sera des souvenirs qui seront beaucoup plus rares et donc beaucoup plus précieux. encore une fois, le jeu de rôle, qu'est-ce que ça peut être? En dehors de l'entreprise ou de l'association dans lesquelles on va pouvoir faire du team building, on va pouvoir se rendre dans des institutions. Des institutions dans lesquelles on va pouvoir apporter notre expertise en tant que, entre guillemets, metteur en scène, scénariste et animateur pour aider des éducateurs, des soignants à amener leur public, qu'il soit donc un public de nature sociale ou un public de nature sanitaire, à aller vers une forme de médiation. Faire parler la personne dans une situation sociale complexe ou faire parler la personne dans une situation sanitaire complexe, ça peut être une mission du maître de jeu de rôle. Alors attention là-dessus, on reste prudent, on n'interviendra pas en solo, il faut toujours que le maître de jeu de rôle, donc professionnel, puisque pour rappel c'est l'objectif de l'amulette, d'amener le métier de maître de jeu de rôle à un niveau professionnel reconnu par l'État. Donc on interviendra dans ces cas-là toujours en partenariat et en présence d'un éducateur ou d'un soignant, le cas échéant, que l'on soit en institution sociale ou en institution clinique ou psychologique. Voilà un petit peu, le jeu de rôle c'est quand même pas mal de choses, on peut l'envisager bien évidemment, et ça c'est le classique, j'en parlais même pas parce que c'est tellement évident à mon horizon de formateur, bien évidemment le jeu de rôle en formation, on apprend à forger, on devient forgeron, en apprenant à forger sur place. Si je vous explique comment forger dans un bouquin, ça va vous faire une belle jambe. Est-ce que vous allez arriver à me faire une magnifique épée comme une lame de Tolède? J'en doute forcément. Et en plus, si vous réussissez la première fois, ça sera une réussite très partielle. Donc, il n'y a pas meilleur apprentissage que la mise en situation. Et effectivement, en formation, la mise en situation par le biais de jeux de rôle est plutôt propice à la compréhension de la situation et à l'acquisition de la compétence par le biais de l'expérimentation. De plus, l'expérimentation, elle est favorable à la chute de confiance que l'on peut avoir quand on rencontre une situation pour la première fois. Si je vous dis taper dans un ballon et essayer de frapper dans la lucarne, désolé, je suis pas fan de foot, mais j'imagine qu'il faut bien s'entraîner pour ça aussi, la toute première fois, vous allez sans doute rater l'objectif parce que vous n'aurez jamais pratiqué ça. Alors vous n'aurez pas forcément de peur, mais en tout cas, vous ne croirez pas en vos capacités parce que vous direz que la première fois, on ne peut pas y arriver. C'est pas totalement vrai, mais c'est pas forcément faux non plus. En attendant, une fois passé le premier coup de pied, le second ne pourra être sans doute que plus précis. Et donc, c'est pareil pour tout ce que vous allez apprendre à faire. Et donc, je me permets de reboucler au tout début. Qu'est-ce que le jeu de rôle? C'est un jeu, on y interprète un rôle, mais en fait, ça va bien au-delà de tout ça. Parce qu'en interprétant un rôle, vous êtes quelqu'un d'autre. En étant quelqu'un d'autre, vous acquérez une vision de vous-même différente de celle que vous connaissez déjà. Et grâce à cette vision, vous êtes déjà en train d'apprendre des choses que vous ne connaissiez pas avant. Et ça, c'est ce qui fait du jeu de rôle une activité qui dépasse de très loin la plupart de toutes les activités ludiques, de toutes les activités professionnelles et de toutes les activités formatives qui existent sans qu'elles l'utilisent. Le jeu de rôle, c'est un outil en plus d'être un jeu. Et j'espère que grâce à ce petit podcast, vous aurez envie d'en savoir plus et d'aller visiter notre site amulette.academy, sans fr, sans com, juste académie avec un y parce qu'on n'a pas choisi. Et donc, vous pourrez visiter l'ensemble de nos prestations disponibles, de nos formations et toutes les actus qu'on vous mettra en lien régulièrement sur notamment la vie du jeu de rôle dans l'Hexagone et puis aussi dans les pays francophones, j'ai envie de dire. On ne va pas se limiter à notre chère France. Hein. On pense à nos amis canadiens, à nos amis belges, et à tous ces pays d'ailleurs, qui pour la plupart sont bien plus avancés que nous sur la thématique du jeu de rôle. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente fin de journée, une super semaine, et à très bientôt sur le podcast.